Allez, au boulot.
Oh, c'est bon, ça
à
va.
À tout à l'heure, Laetitia Gaillet.
Ouais, ça va, il m'a
tout à l'heure,
de
Laetitia Gaillet. Oui, quand même.
La bande originale, c'est Julien Lamy avec Léla Kadorboudadi, Tadjoula, Daniel Morin,
oh, Daniel.
Pierre-Emmanuel Morin, incroyable. Et Charles Ornac est au clavier, et notre invité Samuel Le Billon. De dingue.
On est quatre.
On est, on est ravis, Samuel, de vous accueillir encore plus pour cette pièce de Laurent Chalumeau que l'on n'a pas encore vue. Et pour cause, ça ne démarrera que le 24.
Oui, absolument.
Et on a hâte de voir.
On s'en fout un peu, c'est pour
moi
Samuel.
Moi, je l'ai vu, j'ai adoré. Vraiment,
24 janvier, mardi 24 janvier, c'est là où ça commence au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Tom Villa, vous avez encore... Est-ce que vous avez compris pourquoi Samuel est là?
Déjà, quand une pièce est sortie, il comprend rien.
Ouais. Mais si, j'ai compris. C'est pour montrer à nos auditeurs qu'il y a des pièces de théâtre sans Chantal là-dessous à Paris. Voilà, c'est ça la raison. Non, j'adore Chantal. Si elle nous écoute, je lui fais un gros bisou. Non, je disais, Chantal, si tu nous écoutes, on te fait un gros bisou. Voilà, quoi? Alors, Samuel Le Billon, vous venez dans une pièce qui s'appelle Les discours dans une vie, où vous ne jouez que des discours. Voilà, des discours pendant une heure et demie. Avec vous, c'est du théâtre. Avec Fillon, on appelle ça une punition. Alors, attention, rassure tout le monde dans la pièce Les discours dans une vie. On parle de discours des gens normaux, de la vraie vie, pas des discours de politique. Voilà, si vous vouliez voir Samuel Le Billon la veine au front en train de se péter une corde vocale sur un discours de Macron, vous risquez d'être très déçu. Hein. Donc pardon, dans la pièce de Samuel, non, on est plutôt dans les discours qui jalonnent une vie, comme ceux qu'on fait au mariage, au pot de départ, aux remises de diplômes, aux enterrements. Alors attention, faut faire un discours, c'est une science exacte. Ça tolère très mal à peu près. En général, on peut distinguer trois grandes catégories de discours. Il y a l'émouvant, le marrant et le pas préparé. Le discours pas préparé qui se divise en deux sous-catégories, je vous l'avais dit, c'est une science. Il y a les extraordinaires, comme Annie Girardot au César, et les gênants, comme... On dira pas qui, mais c'est au César aussi. Alors après, il faut bien choisir. Regardez sur YouTube. Alors après, il faut bien choisir son timing. Par exemple, si tu décides de faire un discours marrant à un mariage, faut le faire avant le vin d'honneur. Sinon, après, tout le monde est bourré ou endormi, c'est relou. Au même titre qu'on peut faire un discours marrant à un enterrement. Si, on peut faire une petite vanne sur l'excès de générosité du défunt, par exemple. Par contre, l'histoire de la pute et du chameau après l'Ave Maria, c'est limite. Pas. Mais à la limite, l'enterrement, c'est pas grave si tu le foires. Bah, c'est la seule fois où tu fais un discours pour un mec qui est pas là. Donc voilà. Par contre, le mariage, c'est censé être le plus beau jour de ta vie, et t'as celui qui est censé être ton meilleur ami, qui sort devant ta famille, ta belle famille, tes amis, tes collègues, le témoin, la fois où tu buvais des shots entre les nichons d'une gogo danseuse à Roubaix, le soir où t'as rencontré ta future femme. C'est toujours gênant de dire que t'as rencontré ta femme à Roubaix sur son lieu de travail. Non mais c'est compliqué l'art du discours. Il faut être honnête et focus à la fois. À l'enterrement, faut toujours commencer par c'était un homme bon. Il nous manquera à tous, mais la vie a décidé de nous l'enlever. La cirrhose y a bien contribué aussi. Mais attention, il ne faut pas être trop focus non plus. Par exemple, si ton oncle est un connard raciste et alcoolique, pas la peine de le dire à son enterrement. On dira plutôt « Tonton René était un bon vivant, qui profitait de la vie, malgré son caractère un peu bourru, sa passion pour la France et son aversion pour les voyages. » Voilà. D'ailleurs, je voudrais faire un petit discours ce matin.
Mais ouais, je te sens prêt. Ouais.
Mes chers amis... C'est l'histoire d'un chameau. Non, coupe, Richard, je sens que le timing n'est pas bon. Je vais attendre un petit peu la fin de l'émission. Je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous aimez l'amitié, les gens qui parlent tout seul avec un verre, eh bien, les discours dans la vie est fait pour vous.
Discours dans une vie.
Dans une vie.
Absolument. Merci.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
À partir donc du 24 janvier au Théâtre de l'Œuvre, nous n'avons fait que les lire, ces discours dans une vie de Laurent Chalumeau, mis en scène par Jérémy Lippmann, qui, si ma mémoire est bonne, était comédien aussi.
Oui,
ou l'est toujours.
Oui, il est toujours.
Bah, c'est ça. Parallèlement à sa mise en scène, vous êtes deux en scène avec Pascal Demolon, puisque justement, c'est l'histoire de deux vies, d'une véritable amitié, et puis d'une dizaine de discours qui vont s'entrecroiser. Et on a comme ça. Alors nous, ça s'appelle la bande originale de votre vie quand on fait cette émission avec nos invités. Et là, c'est vraiment les discours de la vie. Ça va de la naissance à la mort, en passant par toutes les étapes de mariage, de séparation, de
rentrée scolaire.
Ouais, il y a tout.
C'est tous les grands moments de leur vie qui sont ponctués par des discours. Et on va comprendre, on va suivre cette histoire d'amitié qui est extrêmement forte et avec deux personnages extrêmement différents. Un est prof de français, l'autre et entrepreneurs. Ils vont, voilà, chacun à sa recherche du bonheur et se posant les questions qu'on se pose tous finalement.
Francis et Martin, en même temps, l'exercice, d'abord, c'est souvent drôle, par moments émouvant. Oui. L'exercice est particulier parce que vous serez en scène. Alors, expliquez-nous un tout petit peu la mise en scène. Ouais. Est-ce que vous avez une table, des verres, ou vous faites semblant de taper un verre pour demander silence à l'Assemblée? Comment vous allez vous comporter?
Chaque moment se situe différemment. Alors, c'est vrai qu'il y a un moment, il y a un pot de départ où il déglingue tout le monde dans la boîte. À un moment, je fais le témoin du marié. Donc,
non, mais arrêtez de me dire un moment. Est-ce que vous êtes dans le mime?
Je ne sais pas. En fait, on cherche, on essaye plein de choses.
Ou dans l'accessoirisation? Est-ce que vous êtes tous les deux en scène ou est-ce que vous vous relayez?
On est chacun son tour pour l'instant. Et c'est vraiment soi et public. Donc ça, c'est en termes d'accessoires, il n'y a pas grand-chose. Mais l'exercice est difficile parce qu'on est vraiment face publique, on regarde les gens dans les yeux. Donc on voit vraiment, on a une image directe de s'ils sont chiés ou si ça leur plaît.
Ou s'ils sont moches.
Voilà.
Mais vous pouvez avoir le papier à la main. Vous pouvez pas faire une lecture, c'est un discours. Donc
absolument,
totalement légitime pour avoir un papier.
En plus, ces personnages, ils ont la tendance à sortir du discours, c'est-à-dire qu'ils partent en impro. Donc on peut pas garder le papier à la main. Au début on se disait ça, mais le texte est extrêmement dur à apprendre.
On se dit, ça va être extrêmement facile. Bien écrit par Laurent Chalumeau, c'est tellement drôle.
Le texte est suffisamment fort, à mon sens, pour que la mise en scène soit vraiment minimaliste. Non, mais c'est vrai.
J'en ai bien parce que vous avez pas l'air prêt du tout. En plus.
Mais je crois sincèrement que en plus faire du public tout d'un coup, le récepteur du discours et le changer de situation, moi je trouve ça très très malin. Et en effet, j'avais déjà lu des textes de Laurent Chalumeau au préalable, des romans, et il a une langue très très efficace, très cynique, je suis vraiment bluffée par les propositions des discours présentés là.
On connaissait son écriture à l'époque de Nulle part ailleurs avec Antoine de Caunes, et puis les sketchs qu'il a écrits pour les Guignols, donc il a une faconde, il a une maîtrise de la langue qui est assez étonnante, c'est-à-dire à la fois il est extrêmement érudit et il a la connaissance du langage de la rue.
Oui.
Et il mixe les deux en permanence en jouant avec un français très très travaillé, très exigeant et des mots qui claquent. Donc c'est très dur à apprendre, l'exercice est exigeant, mais à l'arrivée effectivement ça se fait entre le texte, l'acteur et le public surtout. Ça va jouer quand la salle sera... Ça va jouer avec le public.
Est-ce que vous avez souvent fait dans votre vie, de potes, de témoins de mariage, de baptême, vous avez souvent fait des discours?
Non payé.
Une fois, j'ai fait un TEDx. J'ai fait un TEDx sur...
ces grandes conférences sur,
sur
des thématiques.
Sujet,
et
j'ai été très impressionné. Il y avait beaucoup de monde. C'était 3000 personnes. C'était à Cannes, dans le Palais des Festivals.
Ah ouais, quand même.
Et donc, face publique, la salle est éclairée. Et tout d'un coup, je voyais les gens, ce qui ne m'arrivait jamais, puisque au théâtre, on a cette espèce de...
Oh, vous voyez quand même les deux, trois premiers rangs.
Oui, après. Théâtre. Et puis, on peut ne pas les regarder, quoi.
Oui, aussi.
On a le choix de ne pas le faire. Mais.
Chercher les lumières de projecteur pour être aveuglé.
Ouais. Mais c'est très dur, hein. C'est un exercice particulier. C'est pas du one-man show et c'est pas du théâtre non plus. On est un petit peu dans un exercice entre les deux.
Et autour de cette table, qui a eu droit à son discours de barré? T'as été témoin d'un barré.
Ah ouais, j'ai clôturé un TEDx moi aussi. J'ai fait des blagues.
C'est pas vrai?
Mais si, bien sûr. Bravo, tu te renseignes vachement sur mon actualité, ça fait plaisir.
Tu ne suis pas.
Mais t'as fait comme Samuel?
J'étais au Grand Rex moi. C'était mieux. On est venu me voir après, on m'a dit c'était vachement mieux que ce qu'avait fait Samuel Leblanc.
Mais expliquez-moi, il y a un sujet donné, c'est quoi? C'est un exercice?
C'est un partage d'expérience aussi. Enfin, dans votre cas, c'était pas un partage d'expérience.
Mais
qu'on me laisse entendre me relâcher.
C'était un sujet un peu particulier, c'était sur l'environnement, parce que voilà, on a monté une association.
Oui,
absolument, bien sûr. Et donc c'est un sujet sur lequel on m'attendait pas, mais je venais partager en tout cas un domaine sur lequel des gens travaillent et des inventions intéressantes.
Alors moi c'est pas sur cet exercice-là, c'est pas sur une scène ou dans une salle, c'est dans la vie de tous les jours. Donc est-ce que t'as déjà fait, Pierre-Emmanuel Barrère,
un discours de
pote pour un baptême, pour un pot de départ ou pour un mariage?
Oui, mais dans toutes ces conditions-là, je ne me souviens jamais de comment c'est.
Parce qu'il boit.
On me dit ton discours a été super, mais je ne...
J'ai fait des mariages, j'ai fait des enterrements.
Surtout des enterrements, non, surtout des enterrements.
D'accord,
tendance à faire trop long.
Moi, cet été, j'ai marié ma meilleure amie, j'étais maîtresse de cérémonie, on a fait la cérémonie dans un cadre champêtre. Comme si j'étais le maire, et c'était très, très émouvant, parce que je crois que j'ai pleuré un peu du début à la fin. Oh. Mais ouais, mais c'était. Et d'ailleurs, je l'embrasse, elle est à l'hôpital en ce moment, donc je l'embrasse.
À cause de ton discours
Non, non, à cause du marié, à cause de la nuit de
Tom, jamais discours pour des potes.
Pour un mariage, mais c'était vraiment le cliché de t'avais le micro qui faisait un Larsen. Moi, j'avais un peu trop bu.
C'était à Canal.
Il avait pas préparé. Non, c'était franchement.
Parce que l'exercice, c'est ce qu'on retrouve dans les discours dans une vie, c'est que au-delà d'une manière intelligente de raconter d'ailleurs cette histoire d'amitié, c'est de leur faire des vannes, mais aussi avec une pointe d'émotion, mais aussi en intéressant un peu tout le monde, et puis de consacrer finalement ceux à qui le discours est adressé, que ce soit celui qui part à la retraite, celui qui se marie, ou
celui qui meurt,
ou celui qui nous a quittés, ouais, c'est ça.
Ouais, oui, on se retrouve tous.
Il y a un exercice quand même.
Il y a un vrai exercice. Ouais, il y a un pari, hein, il y a un pari d'acteur là-dessus, parce que je sais vraiment pas ce que ça va donner. C'est assez étrange comme objet. Non, mais j'aime bien le.
Je crois que ça a jamais été fait comme exercice en tout cas. Ouais.
Alors il y a des vraies conférences qu'on fait comme les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ou enfin il y a comme le fait Alexandre Astier aussi, il a une conférence sur
l'exoconférence.
Ouais, l'exoconférence. Ouais.
Mais là on est sur un sujet qu'on va développer, les gens viennent pour entendre parler de ce sujet. Alors que là, on est dans de la déconne. C'est le langage, la langue, l'écriture de Chalumeau et deux acteurs qui vont se prêter au jeu en se lançant et en prenant des risques. Donc il y a à la fois un côté un peu expérience, mais je pense qu'il y a une émotion qui va se partager aussi avec
vous. Vous regrettez d'avoir dit oui?
Et vous allez.
Sincèrement, je pense que ça va être vraiment, vraiment génial.
Et vous allez interpréter l'entrepreneur, c'est ça? Plutôt?
Ouais, moi je me voyais dans l'entrepreneur. Je sais pas pourquoi, à la lecture, je trouve le personnage un peu. Étonnant, peut-être il a une espèce de fantasme, de projection de ce que j'aurais peut-être voulu être quelque part.
Il est très heureux de lui-même. Ouais. Hein, il est très heureux de lui-même.
Ambitieux.
Oui, mais en vérité, il n'est pas ce qu'il projette en fait. Il a l'air assez un petit peu prétentieux comme ça, ou sûr de lui, mais il est beaucoup plus fragile et plus sensible qu'il n'y paraît, et on le comprend à la fin. Sur le dernier discours.
Oui, parce qu'il y a des vrais moments d'émotion. Oui. D'ailleurs, émotion, il ne faut pas dire que l'émotion ne sont que des larmes, ça peut être aussi du rire, mais c'est rempli d'émotion. Et l'exercice, moi j'ai hâte de voir ce que ça donne sur scène. Pascal de Molon, Samuel Le Bihan, ensemble avec cette mise en scène de Jérémy Lipman. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous annonçait la venue de Samuel Le Bihan dans cette émission.
Oui, et immédiatement, quand je pense à vous, Samuel Le Bihan, je pense à votre rôle dans Capitaine Conan avec. Philippe Torreton, un film de Bertrand Tavernier. Mm-hmm. Et je suis tombée sur une anecdote de Bertrand Tavernier qui raconte ce tournage en Roumanie, un tournage un peu compliqué. Commence par une anecdote sur des tentes qu'il avait commandées. Et apparemment, c'était pas vraiment ça. On écoute.
Les tentes, elles sont construites. On a une usine de tentes ici qui travaille pour l'OTAN. Et à un moment, grâce aux interprètes qui quand même nous aidaient, on est arrivé à voir ce qu'était l'usine de tentes. En fait, c'était trois femmes qui cousaient dans une cour. Et là, on voit une tente, mais alors sortie de Platoon, la tente verte américaine typique de la guerre du Vietnam. Et on leur dit, mais attendez, c'est pas du tout ça. On vous a dessiné, vous avez des plans, vous avez des dessins, des croquis, c'est des tentes jaunes, beiges, rondes, très très typiques. Le fait qu'on arrivait dans le train, toutes les vitres avaient été volées.
On le sent un peu énervé quand même.
J'ai pas très bien compris la chute de la phrase.
Et en fait, toutes les anecdotes, toute la préparation de tournage,
que des galères. Ouais, la stigmatisation du Roumain encore.
On tournait comment ? C'était juste, c'était vraiment l'ouverture de la Roumanie, quoi. Donc on était après le putsch et on sortait d'un pays qui était ruiné. Voilà, l'après Ceausescu, un pays qui était ruiné. Donc les gens, ils vivaient de rien, ils se débrouillaient. Il y avait que du marché noir, du troc, et on retrouvait tous vendés. Et les mecs volaient les, les décors, ils volaient les accessoires, ils les revendaient, on les retrouvait sur le marché.
Enfin,
c'était la guerre, même le cuisinier devenait dingue, on lui volait la bouffe. il était obligé de prendre des gardes.
Métier, enfin, ouais. C'est pas une légende, alors le Roumain est voleur.
C'était les Français qui volaient aux Roumains.
Et là, il y a toute une interview de Tavernier qu'on peut retrouver en ligne qui raconte qu'il commande, ça le rendait fou, mais il devenait de plus en plus dingue. Il commandait des camions, les camions ne tournaient pas à gauche. Donc ça veut dire que tous les plans, ensuite en termes de réalisation, tous les camions qu'il avait réussi à récupérer, qu'il avait commandé, étaient, je sais pas, de la seconde, troisième main, et il parvenait pas à tourner à gauche.
Ah, il y a des choses absurdes.
Ah, le volant ne tournait pas.
Et donc le véhicule ne tournait pas à gauche. Donc son plan, lui, qu'il avait prévu de filmer de telle sorte, c'était pas possible. Donc c'était.
Il fallait flipper l'image.
Toutes les conditions, mais votre souvenir à vous de ce tournage, pour en revenir au film.
Ah, c'était épique. Je me rappelle juste ce que je disais, le cuistot qui était un mec superbe, qui était du sud-ouest avec un accent un peu fort et qui hurlait, qui pleurait à moitié parce qu'on lui avait volé ses steaks, quoi. Et il savait pas ce qu'il allait faire le midi à manger. Ce qui était étonnant aussi, c'est qu'on...
Mais comme toutes les situations, épiques, est-ce que sur le moment, on vit une galère... Non, au contraire, sur le moment, on vit une galère noire en disant « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Et avec le temps, avec le recul, avec l'histoire et le parcours du film, on en rit en disant « Finalement, ça reste de bons souvenirs. »
Pour nous, les acteurs, c'était un peu moins difficile parce que déjà, j'étais tellement content d'être là. Oui. Je tournais, j'étais avec Tavernier. C'était vraiment superbe. L'histoire était forte, les personnages étaient beaux. C'était surtout pour Tavernier que c'était épuisant. Tout d'un coup, on travaillait avec l'armée. Et puis tout d'un coup, il y a un gradé qui demandait un bac chiche. il repartait avec son armée, du coup on pouvait pas tourner. Donc il y avait à l'époque, c'était vraiment c'était au bras de fer, mais ça fonctionnait. Finalement, on a appris aussi à s'adapter. Hein.
Et quand je pense à vous, non mais j'ai adoré la tête de Tavernier dans la vidéo, il revit le truc, il est au bout du bout. Et quand je pense
à
vous,
il rigolait beaucoup en vérité. Ouais. Il en faisait des traits d'humour. Hein.
Et quand je pense à vous, Samuel Lebihan, je pense aussi à Alex Hugo, cette série policière en haute montagne diffusée sur France 2 qui a remporté un franc succès que moi j'aime beaucoup. Généralement, j'aime pas trop les séries policières, téléfilms. Est-ce que ça va continuer? Et si oui, est-ce que votre personnage, vous allez le faire évoluer?
Alors, c'est une très bonne question, merci beaucoup. En fait, j'aime beaucoup Alex Hugo, je trouve que ça me va bien. C'est un flic, donc c'est un personnage pris de justice, bien sûr, mais pris de liberté énormément, parce que ça se passe à la montagne, c'est dans des paysages magnifiques. Ouais. Et la force de cette série, c'est que c'est des réalisateurs à chaque fois différents, sur chaque film, et c'est des auteurs aussi différents. Donc on peut re-questionner...
Il n'y a que vous qui restiez, finalement.
Oui. Et les autres acteurs, on est quelques-uns. Il y a Lionel Astier, il y a Michael Fitoussi, et Marilyn Canto. Voilà. C'est bien écrit, c'est beau, c'est bien réalisé, et on peut faire évoluer les personnages au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça s'est pas posé comme une série au départ. C'était un téléfilm qui a très bien marché. Du coup, on en a fait d'autres.
Qui était fait pour être unitaire.
C'était un unitaire. D'accord. Et ensuite, on a fait deux, puis maintenant trois. Ça marche très bien. Je crois que c'est un bon rendez-vous, puis ça nous va bien.
C'est un bon rythme, ça, pour vous, de pas trop en faire non plus, de pas brader la marque Alex Hugo en faisant un tous les mois.
Et le format est particulier parce que c'est pas du 55 minutes, c'est 1h30, donc c'est un film. C'est un vrai film. Donc on est obligé de l'aborder comme une histoire entière. Donc on n'est pas obligé de les suivre les uns les autres. Et on est obligé, on a une exigence sur la qualité obligatoirement, quoi, puisque il y a
mais
pas
ça continue ou pas alors.
Ça continue.
Oui, là, on en a tourné trois cet été qui vont passer l'année prochaine.
C'est une trilogie,
mais après tapitre, parce que la montagne, ça fait chier.
Voilà.
Trois.
Ouais. Et qui sont super. Ça va beaucoup plus loin.
Votre personnage évolue dans quelle mesure, puisque même si la réalisation n'est pas la même, les auteurs.
Il est monté en altitude.
Il grimpe.
C'est vrai que ce personnage, on ne sait pas s'il fuit ou il a une espèce de quête personnelle, mais il y a une douleur profonde, une blessure qui n'arrive pas à dépasser et qui se fait dans ce rapport à la nature.
C'est un ancien Marseillais, c'est ça ?
Oui, il était à la BAC de Marseille. Et il essaye de trouver dans les grands espaces une paix avec lui-même, mais qu'il a du mal à saisir. Donc c'est un personnage tourmenté, mais c'est aussi sa force. C'est-à-dire qu'il a un instinct incroyable sur les enquêtes. c'est un bon flic dans le sens où il a le sens de l'enquête, mais c'est un mauvais flic parce qu'il a un peu trop d'empathie et il a un peu trop
il humanise trop ce qu'il vit. Ouais.
Et j'ai hâte de voir la suite parce que c'est vrai que c'est une série qui rompt avec les traditionnelles séries. Il n'y a pas tout d'un coup la police scientifique qui trouve qu'il a respiré tel muguet en telle année.
Mais tu t'énerves.
Ouais, mais je m'énerve.
Et puis t'as pas vu les trois prochains.
S'il faut, il y a la police scientifique qui arrive.
Non, c'est pas conclu, Leïla.
C'est très nature et découverte. On se sent bien, c'est bio.
C'est bio, c'est détox.
Ouais, c'est bien.
C'est ça.
Moi, j'aime bien.
À partir du 24, vous allez pouvoir vous amuser aussi. Ça sera au théâtre de l'œuvre Les Discours dans une vie, signé Laurent Chalumeau, avec Samuel Le Bihan qui est notre invité, Pascal Demolon, qui partageront ensemble la scène. Et la mise en scène est signée Jérémy Lippmann, que je salue au passage. Voici Pierre-Emmanuel Barré.
Salut tout le monde, attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un type en slip qui descend du ciel en faisant miaou? C'est Jésus qui revient parmi nous. Bah 1-0 pour l'humour. Attendez, comme on s'est pas vu pendant une semaine, j'en ai prévu une autre en cadeau. C'est Noël. C'est quoi un chat avec un téléphone, un portefeuille et un rouge à lèvres dans le cul? Un chat à main. Je vous préviens, 2017, ça va être la folie. Hein, je suis en pleine forme, j'ai rien foutu des vacances, j'ai passé mes journées à regarder de la merde à la télé, et ben vous m'avez manqué. Hein, sauf Nagui, bien sûr, puisque je l'ai vu tous les jours à la télé. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse, hein, et aujourd'hui, comme on est mercredi, on va parler des sorties cinéma. Jingle. Le cinéma, c'est très très bien. On peut y aller avec sa femme et après il fait tout noir. On lui caresse le genou, on remonte jusqu'au vagin. Ça fait flic-flac même si on n'a pas de montre. Et là, votre femme, elle revient parce qu'en fait, elle était allée acheter du pop-corn. Alors on dit à sa voisine, pardon madame, j'ai confondu. Et ouais, ça peut paraître surprenant. Hein, mais ma bonne résolution pour 2017, c'est de ne plus parler politique. C'est trop déprimant. Hein, en plus, juste avant les vacances, la direction de France Inter m'a expressément demandé de cesser de souhaiter la mort des politiciens en direct. Hein. Donc moi, j'accepte, je décide de mettre de l'eau dans mon vin. Hier, je rentre à Paris pour reprendre le boulot et paf, Manuel Valls présente son programme. Putain, il cherche, merde. Alors, je sais, on a dit que je n'ai pas le droit de souhaiter sa mort, mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'imaginer qu'il est sous la douche, tranquille, il chantonne des trucs qu'il aime bien en se savonnant? Je sais pas, mais j'avais des ficelles au képi, autant béni des colonies, et là, bim! Il glisse dans sa douche parce qu'il est propre, mais non, il est con. Hein, il se casse le coccyx en plein de petits morceaux de coccyx. Non. Comme il peut plus bouger, il crie « Au secours, aidez-moi !» Mais comme sa femme, elle est en train de jouer du violon, elle n'entend pas. Du coup, il reste coincé dans la salle de bain pendant 10 jours. Et comme il a trop faim pour survivre, il est obligé de manger son propre caca. Et c'est bien fait pour sa gueule. Hein, il n'est pas mort, j'ai le droit. Hein. Non, mais sérieusement, d'où il vient présenter un programme, Manuel Valls? Le mec, il a été ministre pendant 4 ans et demi. S'il avait une bonne idée, il fallait la sortir avant, merde! On dirait un mec qui va voir son ex et qui lui dit « Hé, tu sais pas quoi? En fait, depuis le début, je connaissais plein de trucs de ouf pour donner des orgasmes, mais je les gardais exprès pour ma meuf d'après. » J'ai quand même lu son programme à Manu, parce que contrairement à lui, j'essaye de bien faire mon boulot. Alors ça commence très fort. Emmanuel dit qu'il faut supprimer le 49.3. Putain, il l'a utilisé 6 fois, il veut le supprimer. C'est comme si Daniel voulait supprimer sa bite. Hein. Et puisqu'on parle bite, parlons couilles. Eh bien, c'est très simple. Hein, chez Manuel, les couilles, c'est comme les bonnes idées. Il n'en a pas. Hein, il n'a pas le courage de proposer le mandat unique. Du coup, il veut juste limiter à 3 mandats consécutifs. Il n'a pas le courage de faire une loi pour rendre obligatoire l'égalité salariale homme-femme. Du coup, il veut juste essayer de la réduire de moitié en 5 ans. Alors, j'ai pas le droit de souhaiter ta mort, Manu. Hein, mais je te souhaite de trouver du Viagra, parce que ce que tu nous sors, c'est pas un programme, c'est une demi-molle. Hein. Alors, les gens qui ont réussi à lire le programme jusque-là sans saigner du nez ne sont pas déçus, parce que ça commence à devenir marrant avec sa proposition de créer 5000 postes, mais attention, hein, pas des profs, pas des infirmières, pas des éducateurs, non, des policiers. Hein. Comme ça, il n'y aura plus de manifestants éborgnés par des tirs de flashball, puisque les 5000 nouveaux flics auront pour mission de viser l'autre œil. Hein. Et Manu finit son programme au firmament de la connerie avec sa proposition du revenu minimum décent à 800 euros. Bah, dis donc, Manu, ce qui aurait été décent, c'est de ne pas écrire autant de merde dans ton programme. Hein. Le loyer moyen en France, c'est 614 euros. Ça veut dire que pour Valls, tu peux vivre décemment avec 186 euros par mois. Ben vas-y, gros, essaie. Et tu feras moins ton malin quand ta douche, ta chambre et ta cuisine, ce sera la même pièce et que le prochain concert de ta meuf, ce sera sur la ligne 13. Hein. Bref,
Alors, comme convenu avec la direction, je termine sur ma chronique cinéma. Le 22 janvier, au lieu d'aller voter aux primaires socialistes, vous faire enculer par Manuel Valls, allez au cinéma, doigter votre voisine. Merci de m'avoir écouté.
France Inter, Nagui, la bande originale.
On est obligé d'aller au cinéma ?
Oui, oh, ouais.
Mais t'es pas obligé de doigter ta voisine.
C'est rassurant pour les voisins.
Ton voisin, si tu veux, Nagui. C'est toi qui choisis.
C'est signé Pierre-Emmanuel Barret. Voilà, je tiens à le préciser pour ceux qui cherchent à le joindre. Maison de la radio, 116 avenue du président Kennedy, 75-116.
Sur mon adresse à Matignon, Nagui.
Salut, le bien est notre invité. On va parcourir les années de votre vie en musique. La musique est un tout petit peu présente dans la pièce, puisqu'il y a des vannes faites sur Kravitz. Si.
Vous l'avez, Samuel, la blague? Non,
vous êtes en train d'apprendre le texte, j'ai l'impression.
Non, c'est pas mon discours, c'est celui de Martin, c'est pour ça.
Ah, d'accord, ok.
Ouais.
Et Nirvana aussi.
C'est pas moi non plus.
Relisez ça. Mais c'est très Martin. Bonne pièce, hein, vous devriez la lire.
La faire, non, mais la lire, oui.
En fait, il me reste la moitié de la... Ouais. C'est ça, c'est génial. Vous n'avez...
Oui, oui, à un moment sur deux, oui, on a des petites pauses
mais oui.
Pendant que l'autre est sur scène.
Mais parce qu'au théâtre, normalement, vous devez plus ou moins connaître les répliques des autres pour savoir à quel moment vous intervenez. Là, attendez simplement la fin du discours.
Là, ça veut dire que si on se plante au milieu, ben, on n'a rien pour
vous
se
rappeler. Vous êtes seul au monde.
Là, il n'y a plus que l'improvisation.
Donc, tour dans les années de votre carrière, la bande originale de votre vie, Samuel Le Bihan, par exemple, en 1984, vous écoutiez... Ça vous évoque quoi d'ailleurs? La musique, vous étiez à quel moment, à quel endroit Parce que ce qui est fort avec la musique, c'est que dès l'instant où on l'entend, on voit avec quel fiancé on est, quelle voiture, quelle fringue, quel appart.
C'est vraiment une mémoire collective.
Bah oui,
c'est fort, c'est le moment.
Je me souviens de la première personne que j'ai tuée.
Mais arrête, toi. Mais arrête.
Oh, ça va. Il a besoin de câlin.
Adoptez-le.
Ou abattez-le.
Moi, je travaille.
Et donc,
c'est conservatoire, c'est les moments où j'étais dans les cours de théâtre, où on rêvait, tout était possible. Et puis ça fait plaisir de réécouter Prince aussi, surtout.
Ouais, ça c'est clair, il nous manque. Chacun se souvient de où il était avec cette musique-là? La bande originale de votre vie, vous?
Moi, j'étais dans les couilles de mon père.
D'accord, très bien.
Bah, c'était en 84, oui, bah, j'étais en couche-culotte. Ouais.
Moi j'étais au même endroit que Tom.
Non. Non. Par exemple, tu passais ce disque à la radio ou pas toi à l'époque?
Non, mais c'était du rock qu'on passait.
Ok,
d'accord, monsieur.
Un zéro
pour la musique.
Barré.
Moi, j'étais dans les couilles de ma mère.
Oh, merde. Ok, d'accord.
Donc, mais Emmanuel n'était pas né.
Vous vouliez être...
Ça passait.
Vous vouliez être peintre, vous, en fait, à la base.
Au départ, ouais. Je voulais être un artiste, c'est sûr. Et je pensais, comme j'étais assez bon en dessin, je pensais que je deviendrais... Je me dirigeais vers les beaux-arts et j'allais... Voilà.
Enfin, je voulais être un artiste, c'est sûr. Ça se voit à quoi? Ça se repère à quoi?
Je sais pas, je trouvais la vie d'artiste assez sympa, quoi. C'est une forme de liberté.
C'était pour pécho, surtout.
Tout. peut-être, je sais pas.
Mais vous aviez quoi comme repère?
Tout est possible quand on est artiste.
Mais à quoi,
les cartes sont rabattues en permanence.
C'est rare de voir une conseillère d'orientation vous dire, voilà, vous avez plusieurs possibilités, puis il y a la vie d'artiste aussi.
Dans mon cadre... socio-culturel. Ouais. Non, mais voilà, moi, a priori...
Non, ce sont vos parents qui vous ont donné le goût?
Non, mes parents... Mon père est artisan. Et vraiment, je sais pas. Je me disais... en tout cas, voilà, peindre, ça me semblait une forme de liberté absolue. Et quand j'ai rencontré des potes qui voulaient faire acteurs, donc ils jouaient des pièces, ils travaillaient dans la rue, ils faisaient des choses comme
ça. Vous avez fait ça, vous aussi, d'ailleurs, voilà, théâtre de rue,
ouais. Ouais, et je trouvais ça génial. Je trouvais ça vraiment super, quoi. Donc,
on se sent pas seul au monde quand on est, théâtre de rue, c'est-à-dire que les gens passe ne s'arrête pas forcément.
C'est ça, c'est que vous transformez la rue en théâtre.
Donc, oui, et puis il y a le chapeau, quoi. On a tendance de le remplir.
Il y a des techniques aussi pour ça. Mais j'ai fait le tour de l'Europe en jouant dans la rue. J'ai même craché le feu, je jonglais, je faisais plein de choses comme ça. Mais c'était du mime burlesque aussi, pas mal. Ouais, c'est un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire que on arrive dans un endroit et puis on jette, donc tout est possible, mais il y a des moments aussi très forts, parce que je me suis retrouvé à Vienne, par exemple. Là, il y avait aucun spectacle de rue. Donc, du coup, ils étaient fascinés. Et il y avait, là, y avait carrément une foule, quoi. Alors que sur, on va sur la Côte d'Azur, les gens sont assez blasés. Donc, c'est limite s'ils vous poussent pas. Mais.
Oui, mais enfin, c'est pour n'importe quoi. Pour spectacle de rue, pour n'importe quoi. Vous avez eu des problèmes avec soit la justice, la police,
À Venise, je me suis fait arrêter. Mais ils me relâchaient, ils n'avaient pas grand-chose, mais c'était interdit. Le théâtre de rue est interdit, mais je ne pouvais pas m'en empêcher de déconner un petit peu, parce que ça attirait les gens. Et puis, c'est une ville qui n'est que touristique, donc du coup, les gens sont
en demande. Et on a l'impression où tout est spectacle.
Tout est spectacle. C'est une scène de théâtre, quoi. Donc, c'était fait pour ça.
Mais vous avez craché du feu trop près des pigeons de la Place Amas.
Non, à Venise, j'ai pas craché le feu, mais c'était sur la Côte d'Azur, surtout. Mais c'était vraiment que. J'avais un truc assez rigolo, je faisais semblant. Vous savez, c'est dans le mime burlesque, il y avait, je faisais semblant d'avoir un pigeon en laisse. Donc, il suffit de mimer et d'avancer en même temps que le pigeon.
D'accord.
Et ça marche assez bien, ça pourrait attirer les gens. C'est assez drôle. Et Venise, il y a plein de pigeons sur la Place Saint-Marc. Donc, ça a fonctionné. Les gens venaient, ça faisait un attroupement, ça faisait une petite foule. Et voilà.
Comme quoi, on se fait chier à Venise. Hein.
1900... les pigeons aussi. 1994, vous écoutiez. I was bruised and battered at home. What I felt I was bon, ça. Unrecognizable
to myself. Belle comédie, hein. I saw my reflection in a window and didn't
know my own face, oh brother. Bah, si tu veux, c'est déjà t'as envie de pleurer pendant tout le film, mais quand ta musique arrive au générique de fin, là, ça y est, quoi.
Elle s'achève,
le morceau est sublime.
C'est le tac, le morceau est sublime, le film aussi.
Sur Willy,
Streets of Philadelphia, Springsteen. À ce moment-là, vous êtes à la Comédie Française dans les années 94. L'année 94, vous y êtes resté 4 ans.
4 ans, oui, j'ai fait un mandat de pensionnaire. Et là, après, à la fin, je commençais à faire du cinéma, donc j'étais de moins en moins là, et puis comme c'est une troupe, hein, quand même, on se doit, soit on joue le jeu de la troupe, ou on part, ils m'ont demandé de choisir.
Vous n'êtes pas bien entendu avec Planchon ?
À l'époque, c'était Jean-Pierre Miquel, et oui, j'avais joué dans une mise en scène de Planchon. Non, je m'entendais très bien avec tout le monde, j'adorais cet endroit. C'était fascinant, parce que tout est fait pour le théâtre, et c'est que des amoureux du texte, de la langue, des auteurs. Parce que c'était assez exigeant, on travaillait énormément.
Je voulais faire le coup des pigeons, ils ont pas voulu.
C'est une vie d'artiste, quoi.
C'est surtout que j'avais beaucoup de propositions
de
cinéma.
J'ai vu passer un pigeon, j'ai pris en laisse, et je suis parti.
C'était le cinéma ou le théâtre, fallait un peu choisir. Ça prenait beaucoup de temps. En fait, chaque fois, je devais refuser une pièce pour me rendre disponible sur des projets ciné. Puis,
regret.
Il fallait choisir. Non, du tout. Ouais. Du tout. J'ai vraiment vu la maison en plus changer à ce moment-là. Par exemple, avec Anne Kessler, elle m'avait proposé elle a mis en scène les textes de Gainsbourg, donc sur les chansons de Gainsbourg, et elle en avait fait un parcours poétique. Et c'était absolument sublime. Elle m'a invité à dire quelques textes avec elle. Et c'est vraiment le moment où la maison, comme on l'appelle, était en train de se transformer, en train de changer. On avait monté un corneille sur lequel on avait mis du Pink Floyd. Donc il y avait des propositions avec une nouvelle génération de metteurs en scène et d'acteurs qui commençaient à faire bouger les lignes. Et après, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un endroit super, parce que à la fois c'est des super acteurs, mais il y a une vraie modernité, tout en proposant des choses classiques.
1999, Samuel Le Bihan, écoute. J'aime bien votre BO finalement.
Ouais.
Laurie Neal avec ce doo-wop. En 99, vous êtes au théâtre, cette fois-ci privé, un tramway nommé Désir.
Ouais. C'est super. Ben, c'est vraiment des moments, j'en garde un souvenir incroyable, parce que c'est le moment où vous n'êtes pas encore trop connu, et en même temps, on est invité partout, on est aimé, ce que vous proposez plaît. Et
Vous étiez le Marlon Brando.
Peut-être ça aide aussi quand même. De jouer une pièce comme Un tramway nommé Désir. C'est un peu comme jouer Cyrano, c'est-à-dire que le rôle est tellement mis en valeur que ça vous porte quoi, énormément. Le personnage est extrêmement charismatique.
Là, c'était pas le nez qui vous a aidé, c'est le débardeur. Quoi. Ouais. Blanc, ça aide.
Enfin, il n'y a pas que le débardeur quand même, il faut le tenir le rôle.
Ouais, le rôle est assez dur à tenir. J'ai beaucoup travaillé à ce moment-là pour être un petit peu à la hauteur de la proposition. Mais après, quel plaisir, c'était vraiment incroyable.
Il y a aussi Vénus Beauté Institute, toujours dans cette même période, où vous avez reçu le prix Jean Gabin. C'est l'une des années clés dans votre carrière, 99.
Ah, c'est une année vraiment de bonheur, où je fais le métier que j'aime, on me propose beaucoup de choses, avec des rôles emblématiques, et je commence, oui, vraiment, à, aussi bien au cinéma qu'au théâtre, à avoir des propositions dont je rêvais... toutes les années.
À partir de quand dans votre carrière vous avez pu vous permettre de refuser des rôles, ce qui est peut-être le luxe ultime pour un comédien?
C'était ce moment-là, c'était le moment où je pouvais choisir en fait ce qui me plaisait le plus, mais j'avoue qu'on me proposait des trucs vraiment super. C'était à la fois risqué, il y avait des vrais enjeux, mais c'était des rôles très forts, très nourris.
C'est dans cette période qu'on vous a proposé le Pacte des Loups?
Oui. Ouais, ouais.
À ce moment-là, vous écoutiez Oxmo Puccino.
J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Mais c'est du son qui coule dans mes veines en bébé. Musique, t'es ma Miley, il sent la mélodie.
C'est une version live.
Auditeur et spectatrice, applaudissez, c'est charismatique. Là c'est quand tu rap magique.
Version live de J'ai mal au mic de Oxmo Puccino. Avant de parler du Pacte des Loups, ce choix musical.
Oxmo.
Ouais.
J'aime beaucoup ses textes en fait.
C'est bien. On est là. On revient dans les discours dans une vie.
Ouais,
on est dans le slam, c'est-à-dire dans l'utilisation du discours aussi pour en faire de la poésie.
Ouais. C'est de la vraie poésie. Il a vraiment donné ses lettres de noblesse au rap français avec des textes très écrits. Et puis une plume très personnelle. J'aime beaucoup le personnage aussi, donc c'était une façon aussi d'en parler. Quoi. Mais...
Alors le Pacte des Loups, tournage éprouvant, un véritable marathon, non?
C'était une aventure incroyable, parce qu'on est parti, on devait faire 3 mois de tournage, en fait on a fait 6 mois de tournage.
Bah, vous porteriez pas un peu la poisse quand vous arrivez sur un tournage? Parce que ce dernier se retrouve avec des trucs qui ne tournent pas à gauche.
Bah non, parce que ça a été un succès mondial, quoi. Mais vraiment mondial. J'étais au Brésil et les gens me reconnaissaient dans la rue, c'était dingue. C'est un film qui a été vendu dans le monde entier, donc... C'est vrai qu'il y a eu un pari au moment où ils ont doublé le prix du film pour le faire,
le
coût de production.
Mais
ensuite, alors ça a été. Non. mais ensuite, ça a été un succès planétaire. Donc c'était dingue. Non, ce qui était fou, c'est de démarrer.
Qu'est-ce qui est plus dur? C'était les scènes de combat, c'était les.
Tout, c'était tellement dense. J'y étais 24 heures sur 24. Je faisais que ça. Effectivement, dès qu'on finissait une journée de tournage, ensuite, j'avais les entraînements au combat. En plus, c'était dingue parce qu'on a démarré en hiver, donc dans des costumes dans lesquels on avait trop froid. On a fini au mois d'août où ils étaient obligés de faire de la fausse neige, mais toujours dans des costumes, dans le même costume. Et vous savez, c'est une chose assez bizarre, c'est-à-dire que d'avoir de la neige au mois d'août, votre cerveau connecte pas, quoi. C'était très étrange. Et plus, on vivait que ça. J'avais changé de siècle, quoi. Puisque c'est...
C'était physiquement éprouvant.
C'est au 18e. Physiquement, oui, assez éprouvant. Ouais. Ça demandait énormément d'énergie. Ouais. Parce que c'était toujours dans des conditions extrêmes. On tournait dans les Pyrénées. Des fois, on avait des conditions climatiques assez difficiles. Et on était toujours mis à rude épreuve, justement, pour mais ça se voit à l'image, c'est filmé, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut se donner à fond, peut prendre des risques et s'épuiser, mais tant que c'est capté, que c'est pour le film, c'est avec plaisir.
Et puis surtout, ça a permis à votre maman de rencontrer Johnny Hallyday.
C'est vrai, j'ai raconté ça. Non, mais c'est vrai, c'était assez incroyable, c'est l'idole.
C'est mignon.
Ouais, c'était très drôle. Ce qui était rigolo, c'est qu'elle lui dit « Bonjour, vous savez qu'on a le même âge ?»
C'était pour l'avant-première du Pacte des Loups, c'est ça?
Ouais. Elle était tellement heureuse. Ouais, j'avais oublié cette anecdote.
Ouais, c'est mignon. On va reparler du discours, les discours dans une vie de Laurent Chalumeau, que Samuel Lubian va interpréter à partir du 24 janvier au Théâtre de l'Œuvre. Et justement, à propos de discours, et l'enchaînement était aussi trouvé avec Oxmo Puccino et la poésie du slam dont vous parliez. Beaucoup de personnes autour de cette table connaissent Bertrand Perrier, qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Alors, c'est pas parce qu'il, en tant qu'avocat à la Cour de cassation, que vous le connaissez. C'est parce qu'il est aussi professeur d'art oratoire en Seine-Saint-Denis.
Pierre-Emmanuel, vous avez un arriéré d'honoraire. Hein. Oui, ouais, c'est pour ça que je suis venu, en fait. J'ai pas pour le film.
Je passerai régler cet après-midi, dès que j'aurai touché mes 300 euros.
Voilà, enfin maintenant, avec le contrôle fiscal que vous avez, suite à vos déclarations sur Manuel Valls.
Et que vous faites partie, donc vous préparez les étudiants au concours et les Concia, et l'Ocancia, pardon, où je crois que tous les... Non, pas toi, Tom.
De quoi?
Mais,
c'est quoi la question?
Moi, j'ai fait membre partie, du jury.
Ah non, Leïla
ouais, j'ai fait partie du jury de ce concours. C'était à Nanterre. Et c'était aussi en juin, je crois.
C'était oui, en juin, aussi, et Pierre-Emmanuel en décembre.
Exactement. Voilà. Ah oui, vous prenez n'importe qui, hein, c'est vraiment...
Eh bien, on vous attend, Nagui.
Eh bien, vous pouvez toujours m'attendre. Moi, vous avez pris ces deux-là, moi, j'ai pas, moi je vais échapper après
c'est,
eux. Hein.
C'est exceptionnel à faire, on en avait parlé là rapidement à l'antenne, c'est vraiment une expérience magique. Et il y a eu ce documentaire qui a été diffusé sur France 2 qui vous donnera une idée.
Alors non, parce qu'on ne peut plus le voir. Il est plus en replay.
Il va falloir l'acheter.
Pour la simple et bonne raison qu'il va sortir au cinéma.
Eh bien voilà,
au printemps, c'est une très bonne idée.
Exactement, enfin je ne suis pas le producteur, mais on me dit effectivement que ça va sortir au cinéma, de sorte que les liens ont été craqués, donc on est désolé. Attendez un petit peu, je crois qu'autour de avril-mai, vous pourrez le revoir sur grand écran.
Excusez-moi, vous exprimez toujours comme ça, dans la vie quand...
Mais écoutez, venez au Conseil d'État à 14h.
Non, non, c'est ça. Non,
par exemple, c'est con, on n'a pas le temps, on sera bien
si vous, si vous voulez vérifier s'il y a de l'eau au frigo, vous dites, chérie, je vais m'en aller voir si dans le frigo, éventuellement, il y a de l'eau fraîche afin que je puisse nous servir. Est-ce que vous vous exprimez toujours comme ça ou il y a un moment où vous pouvez...
Et non, mais c'est parce que vous êtes là, je suis extrêmement impressionné.
Mais non, mais détendez-vous.
Mais ça va très bien.
Ah bon, d'accord, ok. Parce que, justement, c'est ce que vous dites au début du doc, vous maniez la langue extrêmement bien et vous expliquez que vous avez été un immense timide. Et vous parlez à une assemblée de jeunes de Seine-Saint-Denis qui sont peut-être tout aussi timides ou extrêmement grande gueule, mais vous dites, vous ne me faites pas peur, j'ai été timide.
Ah, j'ai été bien pire que le pire d'entre eux, c'est absolument certain. Moi, j'ai une histoire d'amour avec les mots qui est très très contrariée à l'origine. J'étais très timide, j'étais pas la star des booms au collège. Et donc,
c'est pas là où on parle le plus non plus. Hein.
Non, enfin, ça peut être un prélude intéressant.
Ouais.
J'étais absolument tétanisé par l'idée d'une parole publique, et j'étais très timide. Après, quand on veut devenir avocat, évidemment, si on est muet, c'est un peu un problème professionnel.
Alors, parlons un tout petit peu d'Eloquentia avant d'en revenir à l'art du oratoire et l'art du discours. Parce que Eloquentia, de ce que j'ai vu dans le doc, moi je ne connaissais pas ce concours, je l'ai découvert dans le documentaire, qui est réalisé par celui qui a initié...
Stéphane de Freitas.
Voilà, qui est donc écrit et réalisé, mais par celui qui a initié ce concours. On est plus dans soit des joutes d'oratoire, soit une préparation au slam ou à la poésie, qu'à la préparation d'un discours, d'un baptême ou d'un enterrement de vie de...
L'idée générale de l'Eloquentia était de porter la parole en Seine-Saint-Denis sous toutes ses formes. Était de valoriser toutes les formes de parole. Ça peut être du sketch, ça peut être du slam, ça peut être de la chanson, ça peut être du théâtre, ça peut être du discours classique. On fait aussi, après des discours de baptême ou de mariage, c'est pas vraiment d'intérêt, mais on apprend vraiment...
Prends-toi, ça c'est cadeau.
Qu'est-ce qu'on dit?
Il était très timide, hein, vraiment, avant.
Avant, il était timide,
mais je me soigne. Je me soigne, Naki. Merci beaucoup de m'avoir invité pour poursuivre ma thérapie. Non, mais vraiment, voilà, l'idée, c'est de dire que toutes les paroles ont leur valeur, qu'elles soient, encore une fois, du théâtre, du slam. Dès que c'est bien fait, c'est de la belle parole.
Alors, ce que l'on apprend aussi dans ce documentaire, c'est que évidemment, il y a l'expression, il y a la manière d'occuper aussi l'espace, c'est-à-dire la gestuelle qui est importante. Et il y a aussi le sens profond des mots.
Vous avez vu comme il hésite, il est mauvais, hein.
Vous dites. ouais, moi je suis. Ah, non, mais moi je serais super mauvais pour faire un discours. Oublie. Oublie, impossible. Mais il faut avoir confiance et être convaincant.
Oui, alors d'abord sur la question de la gestuelle, les études montrent que le message passe à 60% par les gestes. On voit quelqu'un avant que de l'entendre. Et le message lui-même, les mots, ne comptent que pour 10% dans la force de conviction d'un discours. Donc il faut évidemment faire en sorte que le geste que l'on fait lorsque l'on parle, inévitablement on fait des gestes quand on parle, il faut qu'il soit congruent avec le message. Si on a un langage du corps qui est complètement fermé pour dire soit le bienvenu, évidemment il y a un décalage qui fait que ça ne fonctionne pas.
Il paraît que ce qui est l'une des recettes de le succès de Louis de Funès, c'était de mimer tous les mots qu'il disait. C'est-à-dire qu'il en rajoutait dès qu'il parlait d'un long nez, il prenait le nez, il faisait paf et machin, il le lâchait. Il en faisait un sketch uniquement par des mouvements.
Voilà, bah quand le geste est illustratif, il est bon. Alors il s'agit pas de faire le sémaphore, mais il faut effectivement avoir conscience du fait que le geste est important quand on parle. Et puis les mots, bah effectivement, on essaye de faire en sorte que soit dans un entretien d'embauche, soit sur une scène de théâtre, soit dans un discours classique, eh bien, ils sachent sélectionner leurs arguments, les formuler au mieux, les organiser aussi dans une pensée construite pour essayer de convaincre, comme nous on le fait dans les tribunaux.
Tout ça, ça s'apprend.
Oui, ça s'apprend. Alors, il y a une part de don dans la parole. Vous êtes tous des hommes de parole autour de cette table. Il y a inévitablement une part de don, le charisme personnel.
Il y a des gens qui ne la tiennent pas beaucoup. Mais sinon,
il y a des femmes aussi.
Oui, oui, j'ai déjà... et des femmes. Donc,
non, des hommes.
Ah mince, on m'a grillé.
Non, mais il y a une part de don dans la prise de parole. Mais quel que soit son point de départ, on peut progresser. Et on voit au fur et à mesure du concours Eloquentia et des programmes de formation, en 6 semaines, des gamins qui sont complètement emmurés dans une parole très contrainte ou qui est limitée à des onomatopées, à des borborygmes.
Ou à la vulgarité que vous bannissez aussi.
Oui, parce que je...
ça c'est exagéré ça.
Non, je considère effectivement que la vulgarité ne sert jamais le propos et qu'elle ne me convainc pas. Enfin, c'est un choix personnel après. Mais voilà, j'essaye de faire en sorte qu'ils sortent de leur zone de facilité.
C'était quoi c'est une étudiante qui disait Victor Hugo est un connard.
Oui, elle disait que Victor Hugo était un connard avec ses compagnes. Ce qui n'est pas faux sur le fond. Mais c'est vrai que moi, le mot connard me choque. J'aime pas ça. Et c'est vrai que c'est pas plus convaincant que de dire qu'il reprend... se comportait fort mal avec ses compagnes.
Voilà, c'est ça. Il était trop macho même avec ses différentes compagnes.
Oui, voilà, ça me va. C'est juste d'essayer de trouver le meilleur mot pour véhiculer son idée et
mais
de ne pas s'en tenir peut-être
à celui
qui
vient.
Parfois,
le meilleur mot, c'est connard. Parfois, le meilleur mot, c'est connard.
Mais c'est important ce que vous dites, parce qu'en cherchant la nuance dans l'expression, on affine la pensée, on tombe moins dans le stéréotype et la caricature. Et je crois que c'est un peu c'est un peu le mal du moment aussi.
Et surtout pour ces jeunes de banlieue qui ont vite fait de s'enfermer dans le langage qui est peut-être originellement le leur et dont on essaye de les sortir parce que parler c'est d'abord dire qui on est. On sait très bien
Ils s'enferment pas. Et comme toutes les générations et comme dans il y a pas que la Seine-Saint-Denis et c'est valable dans toutes les régions, on a des codes, on a un argot, on a un patois, on se reconnaît avec ces expressions et
ça t'empêche pas d'être exigeant parce que dire que quelque chose est cool. Bah oui, mais cool, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux pas essayer de dire cool et trouver un adjectif qui puisse mieux convenir et exprimer la subtilité de ta pensée à ce moment-là?
On est d'accord, mais il y a aussi dans n'importe quel que soit le milieu social ou quelle que soit la région, des enfants qui vont s'exprimer en disant chose, truc, bidule, chouette, et en disant, mais va aussi chercher le mot plutôt que de dire chose, bidule, truc, chouette. Et là, c'est ni de l'argot, ni une classe sociale.
C'est totalement vrai ce que vous dites. Et justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que quand on parle, on dit d'abord qui on est, on dit d'où on vient, on dit sa culture, on dit son origine. Et si on peut vite être stigmatisé aussi par cette parole. Et donc l'idée d'Eloquentia, c'est justement de briser ces déterminismes, de briser ces plafonds de verre, de leur donner les codes qui sont nécessaires pour la prise de parole et d'essayer de faire en sorte qu'elle ne soit plus un obstacle mais une chance.
Et après, il y a le propos, il y a le fond.
De tout temps, nous avons eu besoin d'un méchant, d'un bouc émissaire. Les Noirs, les Juifs, les Noirs, les Juifs. Et maintenant... Et maintenant, les musulmans.
On se rend bien compte là qu'il y a du fond, qu'il y a même un fond politique extrêmement fort, mais toujours avec de l'humour. L'humour est quand même le sous-jacent à tous ces discours.
Oui, parce que aussi il y a le contexte qui fait que on fait ça dans un amphithéâtre de Seine-Saint-Denis, il y a 600, 700 personnes. Enfin, vous les avez connus les uns et les autres à Nanterre ou à Saint-Denis. Donc il y a aussi, on est porté par le public et il y a une ambiance assez chaleureuse. Enfin, objectivement, l'amphithéâtre est un peu chauffé à blanc quand on fait une finale.
Vous qui êtes avocat en cassation, est-ce que ça fonctionne également dans les joutes orales qu'il peut y avoir au tribunal de se servir d'un bon mot d'esprit pour faire rire le tribunal?
Bien évidemment. Un bon mot peut avoir son impact.
Ouais,
bien sûr. Après, il faut bien savoir aussi que dans un tribunal, on n'est pas là pour se faire plaisir à soi, on est quand même là pour porter la parole d'un autre. Donc, faire de l'humour juste auto-centré pour faire le clown, non. Après, ça peut être très pertinent et détendre une atmosphère qui est très tendue, mais les enjeux dépassent totalement celui d'un concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis. Enfin, là, on joue la vie des autres, leur liberté, leur argent, enfin voilà. Donc, on peut faire de l'humour, mais c'est pas non plus non, le
ça
lieu...
Ça peut déstabiliser l'adversaire.
Ça peut, mais voilà, c'est pas non plus un lieu de sketch.
Est-ce que, justement, pour en revenir au discours dans une vie de Laurent Chalumeau à la pièce de théâtre interprétée par Samuel Le Bihan, l'exercice du discours auquel, alors là, tout le monde n'est pas encore moins préparé, c'est-à-dire non seulement il faut avoir le courage de se lever et de s'exprimer devant une assemblée, que ce soit de potes, de famille ou de mecs à moitié bourrés au travail, les trois pouvant se retrouver aussi
dans la même personne.
Il faut avoir préparé, il faut l'avoir écrit. Quel conseil pourriez-vous donner justement? C'est de quel équilibre peut-on mettre entre l'émotion
Alors évidemment, un bon discours, à mes yeux, c'est un discours multicolore. C'est-à-dire qu'il peut être poétique, mais qui peut être aussi drôle dans la même minute, dans les mêmes cinq minutes d'un discours de mariage, de baptême, etc. Essayons de faire quelque chose qui est poétique, drôle, émouvant, convaincant, sérieux, triste, mais essayez de mettre plein de couleurs dans un discours. Alors, moi, je suis pas fan des discours intégralement écrits. J'ai écrit ma première plaidoirie et je le regrette encore. Ça devait être horrible. On peut pas écrire ce qu'on
j'ai va dire. J'ai eu des échos, il paraît que c'était très chiant. Hein.
Il a été quand même.
Il est toujours
rien. Donc vraiment, mais je comprends pas comment j'ai pu faire ça. Enfin, j'étais jeune, débutant, et puis j'avais surtout très très peu confiance en moi. Alors, j'essaye de gagner un petit peu de semaine en semaine. Ouais. Mais je crois que le fait d'avoir un papier intégralement écrit vous empêche de réagir au moment d'un juge qui écarquille les yeux ou d'un juge qui fronce les sourcils. Mmh. Et que parler, c'est d'abord être à l'écoute de celui qui vous écoute, justement. Et Samuel le disait tout à l'heure en revivant son expérience cannoise, où il disait, mais je voyais tout le monde, et puis l'impression qu'il ne m'écoutait pas et c'est très déstabilisant. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on voit qu'il faut aller les rechoper. Et donc, si on a un discours écrit, moi je pense que c'est d'abord une prison. Parce que le discours écrit, c'est d'abord une limite physique entre vous et ceux qui vous écoutent. Ouais. Et puis, par ailleurs, ça vous cadre. Et le discours écrit, bah, vous allez le délivrer tel qu'il est écrit.
Et puis, on a le nez dans le papier, on a
les
voilà, yeux.
Et puis, ouais. ça, vous avez le regard qui est tourné en vous. Et donc, j'essaye de faire en sorte qu'ils aient évidemment une écriture, mais que ce soit plus des points de passage obligés.
Une structure, alors.
Oui, une structure. Mmh. Un peu comme, si vous voulez, les portes d'un slalom. C'est là, vous êtes obligé de passer, là, vous êtes obligé de passer, là, vous êtes obligé de passer. Entre les portes, vous faites un peu ce que vous voulez. Cette idée-là, je la veux. Cette formule-là, je la veux parce qu'elle me convainc. Pour le reste, faites ce que vous voulez. Et faites ce que le moment vous demande et réagissez à l'émotion de l'instant.
Et Bertrand Perrier est d'une efficacité redoutable pour l'avoir vu à l'œuvre, puisque quand j'ai assisté à cette, en tant que jury à cette finale à Nanterre, il y avait donc deux étudiants qui s'opposaient, ils prenaient des notes et il a 2 minutes. Et derrière, il te fait un discours de 10 minutes où il fait rire tout le monde aux larmes. Il est très très drôle, ça peut ne pas s'entendre éventuellement dans ses propos très sérieux qu'on est en train de tenir là. Et il a une capacité intellectuelle à jongler avec les idées qui est sidérante.
On va vous laisser tous les deux.
Mais je trouve ça...
Totalement me conquise même.
Je suis totalement conquise par Bertrand.
Hier c'était Jean Reno.
Et par Charles Haroche aussi et Isabelle Châtaignier qui sont deux avocats qui font partie du jury et qui ont cette... C'est un don, c'est un don insensé que vous avez et vraiment si vous pouvez assister à une de ces finales, c'est génial, c'est vraiment génial.
Moi, prochain, ce sera aux chandelles dans 3 semaines.
Dans quelle mesure le pouvoir s'exprimer correctement est extrêmement important pour trouver du travail aujourd'hui en 2017. Est-ce que dans notre société, l'art oratoire a encore une valeur?
Mais il a une valeur encore plus fondamentale que par le passé. On voit bien qu'aujourd'hui, tout passe par l'oralité. On est dans un monde de la communication.
Mais non, tout se passe par mail, tout se passe par réseau, par écrit.
Mais à la fin, on a un entretien d'embauche. Et si on n'a pas les codes de comment se tenir, comment parler, comment se présenter, comment mettre en valeur ses
atouts. Même les vêtements.
Mais bien sûr.
D'accord.
Ça fait partie de la personnalité. Encore une fois, on vous voit avant de vous entendre. Donc, c'est pour ça que je dis que la parole est un sport de combat, parce qu'elle implique tout le corps. Elle implique d'abord le corps, avant d'impliquer les cordes vocales. On voit bien que Emmanuel Macron craque complètement à la fin de son discours de la porte de Versailles. Pourquoi? Parce que physiquement, ça tient pas. Intellectuellement, il est toujours à peu près vif à ce moment-là, mais sur le moment, physiquement, ça craque.
Alors, vous avez trouvé l'enchaînement, et c'était la conclusion que je voulais apporter, puisqu'on est dans une année d'élection. L'importance des discours.
Cette année, on va être évidemment dans une année de débat électoral, donc la parole va être complètement paroxystique au cours de l'année 2017. On va avoir des joutes, on en a déjà vu d'ailleurs à la primaire de la droite et du centre. Il va y en avoir la semaine prochaine, je crois, pour la primaire de la gauche. Et puis on va être dans une année effectivement où on va affûter ses arguments, essayer de sortir des fameux éléments de langage, hein, de la langue de bois, qui est un peu l'anti-parole, c'est-à-dire que c'est la parole qui est complètement déconnectée de la personnalité et de la sincérité. Et nous, ce qu'on essaye au contraire de véhiculer à Eloquentia, c'est l'authenticité, la sincérité de la parole sous toutes ses formes. Et puis là, souvent, la parole politique, elle est corsetée, elle est un peu limitée. Et j'espère que l'année 2017 va être une année de belles paroles politiques, sincères, vraies et convaincantes.
On y croit.
On y croit vraiment. Merci Bertrand Verrier. Merci mille fois d'être
merci
venu.
À vous tous.
On voit, Daniel Morin, que l'éloquence, la maîtrise de l'art oratoire, c'est super important dans notre société. Mmh. C'est un plus au quotidien.
Oh, ça pique, merde, mais c'est tellement beau, autant de clairvoyance dans le propos. Vous me foudroyez, monsieur Guy. Nom de Dieu, cette année démarre sur les chapeaux de roue, vous êtes au top, bordel. Même s'il faut le reconnaître, ce matin, vous êtes quand même un peu bas de plafond. Car non, monsieur Guy, la maîtrise du langage ne sert à rien.
Ah bon ?
Que dalle,
ah bon ?
Que chi, walou.
Un peu.
Prenons quelques héros contemporains. Franck Ribéry et vous. Vous parlez français comme des quiches, tout le monde est d'accord pour le dire. Eh bien, les Français vous adorent malgré tout. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Maîtriser l'art du discours ne sert à rien. Maîtriser les arts martiaux, ah oui, ça sert. Comme le disait l'abbé Pierre quand il gagnait un tournoi de kung-fu, l'éloquence, c'est bien, la violence, c'est mieux. Mais oui, vous le savez très bien, monsieur Guy, le vrai pouvoir, c'est la violence gratuite et fulgurante, celle qui permet de façon justifiée ou pas de massacrer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Essayer de convaincre quelqu'un grâce à l'art du discours, c'est long, c'est fastidieux, c'est chiant pour tout le monde. Alors que, comme le disait très justement Nagui ce matin, une bonne grosse mandale dans la gueule, ça va vite, ça met tout le monde d'accord, ça engendre l'admiration des mâles qui reconnaissent en vous le dominant et l'excitation des femelles qui voient en vous un mâle alpha.
C'est ça.
Bah oui, c'était très bien dit. Alors comme quoi, ce que vous avez dit, monsieur Guy, là, au début, c'est
oui.
du bluff.
Oui.
C'est de la formule de bobo, mais oui. au fond, vous le savez très bien. Ce que vous avez dit, c'est bel et bien du
N'importe
grand...
N'importe quoi !
Comme vous dites.
Laetitia Gaillet de vous informer toute l'après-midi. À tout à l'heure, Laetitia, merci.
De rien, salut, hein. Oui, bisous à tous, allez, chaud.
C'est la bande originale avec Leïla Kadhoubounali,
Sam
Villa, Daniel Morin, Emmanuel Barré, Charles Nakito Crévier pour nous accompagner, notre invité Samuel Le Billon.
Samuel
Le Billon sur scène dans les discours d'une vie. Vous avez un rythme d'ailleurs de présence au théâtre qui est annuel.
Qui est assez régulier, oui, tous les deux ans. Parce qu'après, il y a la tournée. La première année, on joue. L'année d'après, on tourne.
Et comment caler justement les tournages de fiction comme.
Alors, c'est plus dur parce qu'effectivement, Alex Hugo, par exemple, on tourne en septembre-octobre. Et là, donc, du coup, je ne peux pas jouer de pièces sur l'automne-hiver. Et par chance, celle-là, on la démarre fin janvier. Donc, c'était parfait.
Oui, et puis il y a toujours. Pardon, il y a aussi les pièces qui se sont arrêtées par manque de succès. Ou par. Non, je parle de celles qui ont démarré en septembre et qui s'arrêtent. Au mois de décembre et après les théâtres j'imagine cherchent aussi
on attend ceux qui se cassent la gueule et puis après on revient.
C'est la règle de notre métier pour plein de choses, tu
vas bientôt lâcher ta salle, je joue pas cette année.
Les discours dans une vie, c'est drôle et c'est intelligent parce qu'on arrive extrêmement rapidement à comprendre quel est le parcours de Francis et Martin, de ces deux potes qui ont visiblement tout vécu ensemble, à commencer par le témoin de mariage qui attaque avec tous ses faces. C'est des formules qu'on a déjà beaucoup entendues en disant je vois pas ce que tu lui trouves à lui par rapport à
mais
moi.
Bon,
et
ils
machin,
sont
mais...
un peu trash hein, quand même, ils vont beaucoup plus loin.
Ouais.
Mais ce qui est bien, c'est que tous les opposent. Donc c'est ça, c'est une amitié assez originale, particulière et très forte.
Et le discours du prof le premier jour
j'adore.
À sa classe, comment... il est absolument génial. Mais, mais juste
ça,
pour
ce
discours-là, c'est jouissif. On a envie de soit d'être l'élève pour l'entendre, soit d'être le prof pour tenir ses propos.
Alors moi j'aime bien le départ aussi, le pot de départ. départ de, en société, pot de départ à la retraite en disant, et vous allez tous chercher à prendre son boulot, sa place là, sauf moi, car je me casse aussi de cette boîte, et le mec en profite, qui fait...
Mais avant de partir, il déglingue tout le monde.
C'est tellement drôle. Non, c'est super drôle. Et donc, c'est à voir, si c'est signé Laurent Chalumeau, Samuel Le Bihan et Pascal de Molon, c'est au Théâtre de l'Œuvre à partir du 24 janvier, mais attention, ça s'arrête aussi le 18 mars, donc c'est vraiment en flux tendu, là, il n'y a pas...
Oui, pour s'accorder un peu de liberté, pour aller faire d'autres choses, voilà, on est des infidèles hein, dans ce métier.
Mais 40 représentations, mais j'ai oublié de préciser l'essentiel.
Il y aura une tournée, il va y avoir, voilà, ça va. C'est pas fini, quoi, ça s'arrête pas au 18 mars.
C'est à 19h, ce qui est un bon horaire aussi pour pouvoir faire le gueuleton après.
Ah ça, c'est super, j'adore cet horaire-là. Non, mais c'est génial parce qu'on a plein de potes qui viennent et ensuite
vous,
on a toute
la soirée. Vous laisse beaucoup de liberté, pour, c'est ça. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Ah, quand même,
bravo. Ah, c'est déjà drôle.
Ah nom de Dieu, qu'est-ce que je peux m'emmerder en ce moment, c'est pas possible, je m'emmerde mais d'une force. La dernière fois que je me suis emmerdé comme ça, ça remonte à l'époque où j'étais marié. C'est pour vous dire si l'ennui est profond. Je m'emmerde mais aujourd'hui, une étincelle vient égayer ma torpeur. Cette étincelle, c'est vous Samuel Le Bihan. Oui, je vous aime bien. Je vous aime bien et en même temps vous m'agacez. Vous êtes tellement bien gaulé Samuel que vous êtes énervant. D'habitude je suis le seul dans ce studio à avoir un corps de dieu grec. Du coup, je dois avouer que non, je ne vous attendais pas dans une pièce sur l'éloquence. Non, pour moi Samuel Le Bihan c'est un corps, une enveloppe parfaite qu'on a envie de voir onduler, sans être pollué par une quelconque logorée aussi brillante soit-elle. Quand on est gaulé comme ça Samuel, on a la politesse de donner à la foule ce qu'elle demande. Je vous assure que quand les filles, et même les hommes, viennent vous voir, c'est pas pour vous écouter, c'est pour vous mater, Samuel. Alors bien sûr, vous allez me dire, hé oh, c'est bon, ça va, je ne suis pas qu'un corps. Ce à quoi je répondrai, eh ben si. Si, Samuel, vous êtes un corps, c'est comme ça et puis c'est tout. Puis d'abord, c'est ma chronique, je dis ce que je veux. Quand on est face à vous, Samuel, on apprécie le travail de l'acteur, certes, mais en vérité, on attend autre chose. Parfois, on laisse divaguer ses pensées pour se faire notre spectacle à nous.
Disons.
Tenez, imaginons. Prenez une scène du répertoire classique, hein, que vous seriez amené à interpréter. Le Cid, Corneille, acte 1, scène 4, Don Diego. Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu pour cette infamie, ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour en un jour flétrir tant de lauriers. Bon, ben voilà, c'est classique, voilà,
je suis massacré. Ravi.
Mais oui, mais peu importe.
J'aime massacré.
Mais ça fait en
mal.
Réalité.
Ça fait mal aux oreilles.
C'est vrai?
Oui.
Mais bichon. En réalité, c'est pas ce que vous avez joué que 99% des spectatrices ont vu. C'est ce que vous avez. C'est ce qu'elles ont plutôt fantasmé en vous imaginant sur scène, le corps à peine voilé d'un peignoir en coton ultra fin. C'est ça qu'elles ont vu. Salut les coquines. Ça va?
Non, mais non.
Ouais, moi Samuel, aujourd'hui je suis en pleine forme. Je suis content de passer cette soirée avec vous, je pense que ça va être chaud. D'ailleurs, j'ai super chaud, ça vous dérange pas si j'enlève mon peignoir? J'aime bien le contact du coton sur ma peau, mais je préfère encore sentir le vent caresser mon épiderme. Vous savez quoi? Je vais pas faire la pièce ce soir, non. On va plutôt faire l'amour tous sur cette grande scène. Oui, toi, même toi, la moche, au premier rang, viens. Toi aussi, tu as droit au plaisir. Et du plaisir, je peux en donner, croyez-moi, regardez le bestiau. 100% naturel, pas de gonflette, que du bio. Alors que celle qui parle breton ne s'affole pas, Le Bihan, ça veut dire le petit, mais il y a que le nom qui souffre. Allez, on y va. Régisseur, tu m'allumes toutes les lumières. J'ai envie de voir le bonheur quand je le donne dans les yeux de mes conquêtes. Je sais de quoi je parle, Samuel, j'ai le même souci. Quand chez moi, je reçois en slip une admiratrice, je sais pourquoi elle vient. Donc, du coup, j'économise les mots. Oh, monsieur Morin, je suis tellement content. Chut. Ce petit slip, c'est... Vous croyez comment... Non, parce que... Je crois que tout est dit. À demain.
La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
C'était signé Daniel Morin. On a maintenant l'information comme quoi des nouveaux épisodes, je ne sais pas si vous aimez le terme épisode, alors un nouveau volet d'Alex Hugo ont été enregistrés et seront donc diffusés sur France 2 courant 2017. On les attend avec impatience.
C'est toujours sur France 2 ou vous avez fait du pognon cette fois, vous êtes sur TF1?
Je suis toujours sur France 2.
Est-ce qu'il y a déjà des projets aussi soit d'une autre pièce de théâtre ou d'un film?
Il y a des projets, il y a des choses, mais c'est vrai que là, je suis pour parler de la pièce, donc on va parler de la pièce.
Okay. Oh, bah, y a peut-être une petite info ou deux à lâcher quand même.
Il n'y a pas d'exclu, il n'y a pas de...
Un truc sur...
Pas maintenant en fait.
Sur François-Xavier de Maison, un truc.
Ah, il est en tournée et ah, il va faire l'Olympia.
Absolument.
Là,
mais il va surtout faire la bande originale, il viendra nous en parler. Mais
vous êtes
toujours...
produisez.
Oui, alors c'est une histoire d'amitié qui dure depuis 15 ans maintenant.
Carrément, vous l'avez découvert.
Oui, c'est formidable. Et maintenant, il se produit tout seul. Alors, je suis encore un peu coproducteur, mais c'est plus par amitié, par fidélité, mais il a plus besoin de personne. C'est ça qui est formidable avec lui, c'est que c'est vraiment quelqu'un de valeur et qui est de fidèle.
Puisque vous avez réussi à détecter ce talent chez François-Xavier de Maison, vous avez cherché à le reproduire en allant voir des scènes ouvertes, des open mic d'autres comédiens.
À un moment donné, ouais, avec ma production, on a essayé de développer d'autres artistes, on a trouvé des gens super, hein, mais c'est tellement mystérieux ce métier, ça dépend de tellement de choses que le succès, c'est aussi le hasard, les rencontres, les événements. Donc
vous n'abandonnez pas ça, mais c'est pas pour l'instant il y a pas de jeunes talents à aller découvrir que vous produisiez.
C'est beaucoup de travail. Je pense que maintenant,
c'est le mec en fait depuis le début il nous dit ça. Moi je veux pas travailler.
J'ai fait ce métier parce que je voulais être libre. Et en fait c'est que du boulot. On passe son temps à prendre des textes. Non, c'est formidable la production, mais c'est un exercice un peu particulier. Je sais pas si je suis fait pour ça. J'ai découvert moi artiste. J'ai découvert un autre artiste. Et j'ai eu un coup de cœur pour lui et j'ai fait en sorte de pouvoir l'aider.
Donc c'est plus un truc d'amitié qu'un truc de producteur.
Ouais, c'est vraiment comme ça.
Quoi. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Bouledi pour Samuel Lebihan.
Enfin,
le bon rang d'édition.
J'attendais ça depuis le début.
Oh mon chéri Samuel Lebihan, je vous sors de la promo un petit bol d'air histoire d'apprendre à mieux nous connaître.
Plaisir.
Et on commence avec un son pour vous, Samuel.
Je voudrais vous parler de Noma. Noma, c'est le nom d'un monstre qui dévore les enfants. Il leur saute au visage puis il les tue. Noma vit et sévit surtout en Afrique. Il s'en prend aux plus démunis, aux plus vulnérables. S'il commence par le visage, c'est parce que ça se voit tout de suite, le visage.
Voilà, c'est l'aspect Samuel Lebihan aussi engagé. C'est une campagne où vous soutenez une association contre Noma.
Je suis parrain de l'association qui s'appelle Vaincre Noma.
Ouais.
Et en fait, Noma, c'est une maladie qu'on connaît très peu, qui a été éradiquée en Europe au 19e siècle et qui existe encore dans certaines formes, un peu en Asie, mais surtout en Afrique.
Ouais.
Et c'est vraiment la maladie de la pauvreté. C'est lié à mauvaise hygiène et mauvaise alimentation. Et c'est une bactérie qui s'attaque directement à la chair et qui attaque le visage. Ça se soigne avec un antibiotique. Ça coûte avec 10 euros, on le soigne.
Ouais. Donc, il suffit d'être accidentel, en fait.
Il faut que ce soit pris à temps.
Il suffit de pas être pauvre, voilà. On va le soigner.
Bah, ouais, absolument. Donc, en fait, la campagne vise évidemment à recueillir des fonds. Pas forcément pour acheter des antibiotiques, ça c'est accessible,
ouais.
Mais c'est surtout pour informer les gens et leur donner accès à ces médicaments.
Ouais. Dans faites gaffe à ce que vous dites quand même, parce que on récolte des fonds, pas spécialement pour soigner les gens.
C'est pas
on
verra
ce qu'on fait de l'argent après, mais on récolte des...
Non,
ce que je veux dire, c'est que la maladie se soigne facilement, mais c'est surtout faut donner accès aux soins. En fait, et ça, c'est ce qui est.
Donc, dire à ceux qui ont cette maladie qu'il est possible de la soigner.
Et puis les aider aussi à amener les médicaments jusqu'à eux.
Voilà.
Voilà. D'accord. Non, évidemment.
Et puis au préalable.
C'est un joue un peu en bourse de temps en temps.
Non, mais Nagui, c'est quoi il parle. Il s'est fait 5 millions cette année avec le Téléthon. Donc...
Mais c'est vrai que la phrase comme ça restait en l'air, c'est un peu bizarre.
C'est une maladie peu connue qui est absolument terrible, qui est vraiment traumatisante et qui peut soigner facilement. Donc voilà, c'est une cause légitime et importante.
Et pourquoi vous êtes engagé justement pour cette association-là?
Je voyage pas mal, je suis allé pas mal en Afrique aussi, donc voilà, on allait au Mali, on allait au Sénégal, on allait en Côte d'Ivoire, enfin voilà, au Burkina Faso, c'est une maladie qui existe, dont on parle, qui est assez emblématique de l'Afrique, donc et surtout voilà, qui stigmatise la pauvreté. Je me sentais assez proche, en tout cas, de cette association.
On poursuit avec un autre son pour vous, Samuel Lebihan.
Malgré un soleil trompeur, le froid est extrême. Il fera bientôt moins 30 degrés. Et pendant 7 mois. C'est pour échapper à une mort certaine que les sans-domicile trouvent refuge dans les entrailles surchauffées de la capitale. Ici, les gens jettent leurs déchets. On récupère les restes de repas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il en soit réduit à manger des détritus avec son fils? Et qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour qu'on laisse un enfant de 4 ans vivre comme un clochard ?
C'est un extrait de Nomad's Land, un doc que vous avez réalisé en 2008 pour Envoyé spécial sur les gens qui vivent sous terre à Oulan-Bator, en Mongolie. Ouais. Comment vous êtes retrouvé à faire le journaliste là
Alors j'étais au conseil d'administration d'Action contre la faim.
Ouais.
Et j'étais un petit peu au courant comme ça de choses. Alors, on est habitué aux bidonvilles. Des villes de l'hémisphère sud. Mmh. Et en Mongolie, avec le bouleversement économique, la découverte de l'économie de marché et la mondialisation, le pays est tombé dans une ruine violente. Et les gens qui vivent dans la rue sont mis à vivre dans les sous-sols. Et j'étais au courant de ça et j'avais envie d'en parler, donc j'ai proposé le sujet. Envoyé spécial, et ils m'ont dit d'accord, on te suit. Et puis, c'est. Ils m'ont mis entre les mains de Kappa Drama, ouais. des professionnels. Je suis parti avec un caméraman qui était habitué à faire ce genre de sujet, Alexandre Boucher. Et au début, c'était juste pour faire un état des lieux. Et puis, on s'est retrouvé pris à suivre ce père et cet enfant de 3 ans qui vivait dans les sous-sols d'Oulan-Bator. Et puis ça a été une aventure incroyable parce qu'on s'est retrouvé aussi dans la steppe à dormir dans une yourte avec toute une famille. On s'est fait attaquer par les loups pendant la nuit. Enfin, c'était insensé, mais voilà, ça faisait un état des lieux de ce que est aussi la mondialisation, ce que ça provoque et le choc des cultures, le choc économique. Et voilà, c'était très émouvant.
Malheureusement, on n'a pas besoin d'aller aussi loin pour voir les désastres de l'économie.
Bien sûr, mais en regardant ce qui se passe aussi loin, c'est aussi, ça nous donne un reflet sur ce qu'on vit aussi aujourd'hui. C'est une façon de reprendre de la distance et tout d'un coup d'avoir conscience aussi de ce qui se passe dans notre propre rue. Parce qu'au bout d'un moment, on ne les voit plus, ces gens-là, on s'y habitue.
Et votre engagement pourrait devenir politique cette année ?
Non.
Vous avez l'air d'être...
Je suis pas sûr de croire vraiment en la politique. Je pense que l'économie a un vrai pouvoir aujourd'hui. Je crois vraiment à l'associatif, je crois à l'entrepreneuriat social. Il y a énormément d'initiatives qui se font là-dessus et qui sont vraiment enthousiasmantes. Voilà, je crois vraiment au travail que font les gens dans les quartiers, dans les villages, la façon dont la société peut se regrouper autour d'une idée. Mais
il n'y a qu'à écouter tous les jours les carnets de campagne de Philippe Bertrand pour comprendre ce qui se passe en France justement et comment ça bouge.
Toutes ces initiatives, vous avez l'air d'être très impliqué, très dans la réflexion sur la société. C'est quelque chose qui vous occupe dans vos lectures, dans comment ça se matérialise chez vous au quotidien.
Je m'en rends pas bien compte, mais par exemple, là, il y a une chose qui me prend pas mal de temps. On a monté une association. Au sujet des déchets plastiques, ça s'appelle Earthwake. Alors c'est vrai qu'en France, on n'est pas très concerné parce que on a un tri sélectif, c'est organisé, on paye des impôts, puis voilà, on vient nous ramasser nos ordures. Mais il y a des pays où c'est beaucoup moins organisé et il y a un détritus qu'on ne peut pas recycler. En tout cas, c'est le plastique.
Nicolas Sarkozy.
Du coup, on a monté une association qui travaille à donner les moyens à une petite localité, à un quartier, un village, les moyens de retraiter les déchets plastiques pour pouvoir les recycler. Oui. Mais pas à un niveau industriel, à un niveau de collectivité.
Enfin, vous dites que nous, on est déjà bon dans le recyclage. Il y a des villes comme San Francisco qui recyclent 80...
La Suisse, c'est 100%.
Alors, 90% de leurs déchets, ouais, c'est ça.
Nous, on est en recyclage, la France, c'est à 30%.
On a encore du boulot. Hein.
Ouais, on a du boulot, ouais. C'est clair.
Oui, il y a du boulot, mais en tout cas, c'est bien d'en parler. Puis c'est bien, à votre échelle aussi, de faire des choses, quoi. Et je finis par un petit cadeau. Tout à l'heure, on a parlé du cinéma et de faire l'amour à plusieurs reprises, je crois, Pierre-Emmanuel Barré.
Eh bien, alors, Leïla, mais pourquoi tu reviens sur ce terrain-là ?
Mais je sais pas, parce que j'aime bien faire des liens. C'est mon côté, j'aime bien faire des liens.
C'est son côté bondage.
Voilà, donc un petit cadeau. Le titre, c'est un hasard, hein. C'est Aller au cinéma ou faire l'amour, voilà. De Christine.
Et on peut faire les deux en même temps.
C'est signé Christine Masson avec des illustrations de Yann Legendre. Christine Masson, c'est une consoeur qui coanime depuis
depuis 10 ans sur France Inter. L'émission On aura tout vu, qui est consacrée au 7e art. Et c'est une vraie amoureuse du cinéma qui a rencontré les plus grands. Ça fait 30 ans qu'elle les côtoie tous, les Almodovar, Ferrara, Coris Maki, Coppola. Et elle raconte à chaque fois des anecdotes lorsqu'elle a rencontré tous ses réalisateurs.
Il y a le numéro de Leïla, page 8.
Samuel Le Bihan.
C'est super, merci beaucoup.
Et notre invité sera au Théâtre de l'Œuvre à partir du 24 janvier dans Les Discours dans une vie. C'est signé Laurent Chalumeau.
J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, le diable, toi et tes apôtres, je m'en vais. Et ce qui perle sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais.
Vianney, je m'en vais.
Ah, c'est bon, Vianney.
Ouais, c'est bon. C'est bon. Et c'est un artiste que j'aime et qui
est dans le blues. Il est amoureux.
Ouais.
C'est vrai?
Bah ouais, j'aime Vianney. C'est un mec intelligent, talentueux.
Mais moi aussi, j'aime bien.
Et qui a la main sur le cœur et qui va venir, d'ailleurs, dans N'oubliez pas les paroles, se prêter au jeu de cette émission pour des associations qui en ont besoin. Mais d'abord, voici des excuses. Après, ouais, j'invite que les gens qui chantent.
Mais je suis désolé.
Des excuses, Daniel Morin.
Désolé pour cette glorieuse population roumaine dont le côté débrouillard a été quelque peu stigmatisé par toute cette équipe, surtout Samuel Le Bihan. Je l'ai toujours dit, le racisme, c'est mal. On est tous d'accord, les amis. Désolé pour cette joyeuse population de la Côte d'Azur, dont le côté carré et respectueux de la loi a été stigmatisé par Samuel également. Oh là là, je vous le rappelle, le racisme, c'est mal, les amis. Et désolé pour les futurs spectateurs de la pièce de Samuel Le Bihan. Hein,
on a bien pu voir.
Oui, une pièce de théâtre. Voilà, c'est comme ça. On a vu ce matin que le texte, voilà, n'était pas encore appris, la mise en scène, dans le meilleur des cas. Il n'y en aura pas. Bref, les amis, tout ça, ça sent vraiment l'arnaque.
Et c'est au Théâtre de l'Œuvre. et on a envie d'y aller.
Ouais, c'est le 24.
À partir du 24, oui, absolument, à partir du 24 janvier. Merci Samuel Lebihan, portez-vous bien. On ira vous voir au Théâtre de l'Or, on ira vous croiser dans les coulisses de...
Vous avez passé un très bon moment.
Des fixes de maison, ça sera à l'Olympia, on en reparlera avec François-Xavier, qui sera notre invité. Et à propos d'invité, c'est Leïla Slimani, prix Goncourt, mais qui viendra nous parler du Paris des femmes, qui sera notre invité demain dans la bande originale. Bonjour Philippe Bertrand.
Bonjour Nagui, bonjour les amis.
Salut
bonjour
Philippe,
comment vas-tu?
Moyen.
Ah, je me gratte
parce que j'ai plein de poisses.
T'as plein de poisses.
Non, je sais pas, rapport à Daniel. Bravo pour les engagements de Samuel.
Ouais.
C'est gentil, merci.
Mais non, mais un comédien qui pense et qui agit, bille en tête.
Bille en tête.
Bille en tête.
Pardon.
Bonne émission.
Excusez-moi.
Il n'y a pas de mal.
C'est l'heure.
On l'a perdu.